Terre des hommes. Terre des hommes. L'émission qui donne la parole aux étudiants étrangers, proposée par le service du recrutement international de l'Université catholique de l'Ouest.
Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver en cette nouvelle année 2022. Nous sommes le 8 février 2022, Jean Robin au micro. Alors mon collègue Clément n'est pas là puisqu'il est au Ghana en mission en Afrique de l'Ouest. Mais en revanche, pour vous chers amis auditeurs et auditrices, j'ai autour de cette table, dans ce studio, trois invités d'honneur qui vont dans quelques instants se présenter à vous. À tout de suite. Père Gaston, bonjour.
Bonjour Jean.
Donc je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui sur ce plateau de Radio Campus. Donc vous êtes venu avec le Père Togo, vous êtes béninois d'origine et vous travaillez à Abidjan. Alors qu'est-ce que vous faisiez au Bénin et pourquoi est-ce que vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire? Et puis en troisième partie de mon questionnement, ça serait, mais qu'est-ce que vous faites aujourd'hui en Côte d'Ivoire?
Merci beaucoup Jean. Avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord remercier les autorités de l'UCO qui nous accueille, et je sais que vous avez été de beaucoup dans l'organisation, dans la préparation, et nous sommes vraiment très heureux d'être ici. Merci infiniment pour l'accueil, et nous sommes très très touchés. Et nous nous sentons vraiment en famille, et c'est quelque chose de beau, de grand, de noble, et ça montre l'esprit catholique de nos universités. Alors, pour revenir à votre question, donc moi, c'est Gaston Ogikossi. Je suis originaire du Bénin, qui est l'ex-Dahomey. Alors, moi, je suis ordonné prêtre en 91. Et ce que je peux dire, c'est que le Bénin a une histoire assez riche. Dieu merci, pour l'instant, on est épargné des guerres civiles, mais le Bénin a connu quand même une situation politique assez mouvementée. De 1960, l'année de la date de l'indépendance jusqu'en 72, c'est des coups d'État répétés. Mmh. En 72, donc le Bénin a connu, je dirais, un coup d'État, des coups d'État, et qui a permis donc de basculer donc dans le marxisme-léninisme que nous avons vécu pendant 17, quasiment 18 ans. Et après, nous sommes passés donc à la démocratie et le Bénin passait pour le pays le plus démocratique de l'Afrique parce que c'est le tout premier pays qui a organisé ce qu'on appelle les transitions démocratiques, les conférences des forces vives de la nation et pour passer donc à la démocratie. On a connu donc cette période de démocratie pendant plusieurs années. Malheureusement, avec le régime en place, ce n'est pas tout à fait ça. Il y a beaucoup de plaintes, à tort ou à raison. C'est vrai, l'actuel président fait beaucoup de bonnes choses, mais il n'y a pas beaucoup de liberté d'expression, pas beaucoup de liberté de la presse, pas beaucoup de liberté donc, d'action et de mouvement. Et en cela, donc, les gens ne sont vraiment pas très, très fiers. Bon. Pour parler de moi-même et de mon église, moi, j'ai jamais été curé de ma vie. J'ai fait simplement 3 ans de ministère pastoral paroissial, de 91 à 94. En 94, j'ai fait des études supérieures à Abidjan. En ce temps, c'est l'ICO, l'ICAO, qui a été créé conjointement par Monseigneur Orchan et Monseigneur de Souza, en ce temps-là.
L'ancien archevêque d'Angers.
Voilà, abbé Orchan et abbé de Souza. Et donc, moi, j'ai la chance d'être formé en ce temps-là, donc en 94, de 94-96. Donc, c'est là où j'ai fait ma licence canonique. Après, je suis allé à Rome pour faire ma thèse à la Grégorienne en Christologie, le Christ comme l'universel concret, le rapport entre le particulier et l'universel. Et après, on m'a envoyé pour enseigner au grand séminaire Saint-Gall de Ouidah, donc où j'ai enseigné 10 ans. Et pendant que j'enseignais à Ouidah, je venais également donc à l'UQAO depuis 2002 pour enseigner toujours la théologie. Je ne sais faire que ça. Je ne sais faire que ça.
Un professeur, moi, un vrai professeur.
Et moi, bon, vraiment, je m'y plais beaucoup, bien sûr, bien sûr. Alors, et actuellement à l'UQAO, qu'est-ce que je fais? J'enseigne bien sûr à la faculté de théologie, mais depuis 2017, on m'a confié la direction. Je suis d'ailleurs le premier directeur donc, de la recherche et de la coopération. Et donc, je travaille avec les délégués de chaque faculté et institut. Et là aussi, vraiment, je m'y plais beaucoup. La coopération donc, m'a permis donc, de rencontrer Jean, avec qui bon, nous avons beaucoup travaillé pour consolider les liens de l'UQO et de l'UQAO. Et nous continuons toujours de travailler. Et bon, la coopération m'a permis également de rencontrer Philippe. On aura l'occasion peut-être de revenir sur cette question. Et, bon, bref, moi, j'ai vécu tout ce que je viens de vous dire, que ce soit au Bénin, que ce soit en Côte d'Ivoire, dans la joie, dans le bonheur. En Côte d'Ivoire, ce qui m'impressionne, c'est que le peuple ivoirien en général a le charisme de dédramatiser les événements. Et quelle que soit la gravité, la cruauté de l'événement, ils mettent ça tout de suite en champ et ils dédramatisent. Ça fait que on ne connaît pas beaucoup de dépression, parce que c'est un peuple qui s'appelle d'ailleurs la Côte d'Ivoire, la capitale de l'humour. Ils ont ce talent, donc cette capacité de dédramatiser des choses et de faire en sorte que, bon, on passe à autre chose, quoi.
Est-ce voilà, que c'est voilà la ce culture, la culture au service de... En quelque sorte, la culture comme forme de thérapie? Thérapie
exactement,
personnelle et
exactement
thérapie
le rire comme une forme de thérapie. Et ça, donc, le peuple ivoirien est vraiment très, très, très versé dans ça. Et pour abonder un peu dans le même sens que mon président, au fond, quand moi je regarde la jeunesse ivoirienne et comme d'ailleurs la jeunesse de nos pays, je vois que c'est, c'est une jeunesse très dynamique. Deux, c'est une jeunesse qui a de l'espoir et qui se dit, non, demain sera meilleur. Et c'est une jeunesse aussi qui est très engagée. C'est vrai, on ne peut pas dire que c'est tout le monde qui travaille de façon acharnée, de façon, suivie. Mais on sent quand même que beaucoup disent non, demain doit être meilleur qu'aujourd'hui.
Les jeunes Ivoiriens et les jeunes Ivoiriennes ont quand même tous et toutes les smartphones, Facebook, les réseaux sociaux. À votre avis, Père Gaston, est-ce qu'ils vont continuer de se transmettre cette culture de la danse, du chant, de la mimique pour justement dédramatiser les événements douloureux de la vie, y compris les événements politiques ou militaires? Est-ce qu'ils vont continuer de se transmettre ça? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que cette culture occidentale, ou en tout cas de la technologie, par les smartphones notamment, ne risque-t-elle pas de détrôner cette perle, cette pépite culturelle qu'ont les Ivoiriens en eux?
Oui, c'est vrai, le risque est là, mais en réalité, ce que nous essayons donc de découvrir, c'est de ne pas trop nous attarder sur le passé. Le passé n'est pas un roc sur lequel on peut bâtir le présent et le futur. Le passé a des moments glorieux, des moments douloureux, et le présent aussi. Alors la technologie, c'est vrai, la technologie n'a pas que d'avantages, mais la technologie n'a pas que d'inconvénients non plus. Alors, beaucoup aujourd'hui, à travers d'ailleurs la technologie, essaient déjà même de voir dans quelle mesure, non seulement cette culture du rire, cette culture donc de l'humour, non seulement ils peuvent transformer ça à partir donc de la technologie, de la communication, mais dans quelle mesure développer ça? Faire en sorte que ce ne soit pas simplement quelque chose qui se vive donc en Côte d'Ivoire, mais qui puisse rejoindre les autres peuples, pas seulement d'Afrique, mais d'Europe. Et ça, je pense que en cela, la technologie peut être même un atout pour consolider donc ce bienfait plutôt que de l'étouffer. Voilà.
Tout à l'heure avec Philippe, on va discuter de ce projet qu'on a entre nos deux universités qui pourrait aider, permettre à ce que nos jeunes étudiants français découvrent cela et inversement. Et ce matin en réunion, Père Gaston, vous parliez de non pas le retour aux sources, mais le recours aux sources. En quelque sorte, on va laisser la technologie, parce que c'est le monde moderne, nous habiter, mais on va ne pas oublier pour autant d'avoir recours à notre culture et à nos sources d'enfants et éducationnelles. Et c'est ça que vous voulez dire, non?
Tout à fait. Au fond, l'inconvénient, c'est de croire que, voilà, nous avons, et c'est l'erreur de la plupart donc, de nos chercheurs, de croire que l'Afrique d'hier, c'était l'Afrique, c'est l'Eldorado, c'est le paradis terrestre. C'est pas vrai. On a connu des moments aussi sombres. Donc, dans l'Afrique d'hier, ou bien de croire qu'aujourd'hui est pire, le père l'a dit tantôt, même les pays occidentaux sont passés par donc, des moments douloureux. Alors, au fond, nous continuons de croire que dans nos traditions, nous avons un noyau dur que nous pouvons récupérer. Et ce noyau dur, quelle que soit la technologie, quelle que soit l'influence même externe, quelle que soit l'influence interne, ce noyau dur va rester. Et donc, le recours dont nous parlons, c'est tout simplement de jeter un coup d'œil pour voir qu'est-ce qui peut nous permettre de bien vivre le présent, de faire en sorte que le présent soit quelque chose qui, non seulement ne fasse pas de nous des hommes et des femmes, j'allais dire nostalgiques, mais des hommes du présent, et qui voient l'avenir, mais comme quelque chose qui peut se faire et se refaire avec ceux qui sont là. S'il y a une valeur dans la tradition, une valeur dans le passé qui peut nous permettre de vivre cela, tant mieux. Mais sinon, on ne va pas vraiment pleurnicher sur le passé ou bien même sur cette rencontre douloureuse. Ah, non, aujourd'hui, nous regardons devant nous.
C'est quoi
nous
ce
regardons
noyau...
devant nous.
Père Gaston, c'est quoi ce noyau dur dont vous parlez? Comment vous l'appelleriez? En quelques mots, comment vous me décririez ce que c'est ce noyau dur de la culture ivoirienne qu'il ne faut pas négocier, qu'il faut préserver coûte que coûte?
C'est vrai que sur cette question aussi, les avis sont partagés. Les avis sont partagés. On dit on ne peut pas avoir de noyau dur qui soit différent donc, des autres peuples. Mais ce que moi je vois comme noyau dur de la tradition, je dirais africaine, pas seulement ivoirienne ou béninoise ou malienne, c'est la place de l'homme. L'homme, pour nous, malheureusement, aujourd'hui, les expériences demandent cela, mais l'homme, c'est quelque chose de sacré. Et en vertu de la sacralité donc, de l'homme, mais on ne peut pas construire un peuple, on ne peut pas construire un pays sans chercher à développer l'homme. Et donc, c'est pour ça que nous, dans la formation, on ne cherche pas simplement à remplir la tête des individus, mais faire en sorte que cet homme qui hier est appelé donc homme hospitalier, qui est appelé homme accueillant, est appelé homme, j'allais dire, rempli de respect de la vie, respect de l'autre dans sa différence, que cet homme-là, on puisse encore le découvrir, le redécouvrir et travailler avec cet homme-là.
Ce matin, vous nous avez parlé des problématiques de la ville, de l'exode rural massif. Les villes africaines sont en train de grandir, de croître très très vite, plus vite que ce que les statistiques avaient prévu il y a 15 ans, à tel point d'ailleurs que la moitié de la population, ou 70% de la population africaine d'ici une vingtaine d'années va vivre dans les grandes mégapoles comme Kinshasa où il y a 12 millions d'habitants. Comment est-ce que dans cet déracinement de ce peuple qui sont d'abord avant tout des paysans, nous les Français on est des paysans, on sait que les Anglais c'est des marins, mais on a vécu cette transition comme brutale nous, l'exode rural dans ces 50 dernières années. Vous êtes en train de la vivre sur quelques années, quelques décennies, tout, c'est très court. Comment est-ce qu'on va pouvoir rejoindre ces hommes et ces femmes qui, initialement, venaient de petits villages bien organisés, avec les autorités locales, religieuses ou politiques ou sociales, et qui, d'un seul coup, pour des raisons de survie, souvent, quittent ce village, arrivent dans des grandes, immenses villes africaines où l'urbanisation n'a pas toujours été bien pensée, il n'y a pas toujours l'eau courante, l'évacuation des eaux usées, pas toujours les hôpitaux et les infrastructures scolaires. Comment on va rejoindre cet homme-là dans cette, excusez-moi l'expression, ce n'est pas péjoratif, mais dans cette jungle citadine?
Tout à fait. Il y a un de nos spécialistes qui dit les villes africaines sont planifiées et réalisées, mais ne sont pas pensées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, on a laissé croître les villes. Les villes simplement de façon, je dirais même anarchique. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que, au fond, comme je le disais, de la technologie, de la ville aussi, on peut dire la même chose. La ville ne comporte pas que d'inconvénients. Nous avons eu l'occasion de travailler pendant 3 ans sur la théologie de la ville, la théologie du village, et nous avons comparé. Au fond, aujourd'hui, ça va peut-être vous surprendre, entre une ville comme Abidjan et des petits villages de rien du tout, comme, je ne sais pas quel village, Dabou, mais il y a plus d'une grande différence. Parce que vous avez parlé de smartphones, il y en a dans ces pays-là aussi. Donc, il y a comme une urbanisation, donc des villages, mais aussi le contraire se vérifie dans la ville.
C'est ça.
Dans la ville, les gens se regroupent par affinité.
C'est ça.
Autant qu'ils puissent le faire, ils se regroupent par affinité.
Ils recréent des villages.
Ils recréent des villages.
Au sein de la ville même.
Exactement. Et moi, j'ai l'habitude de parler donc de les nouvelles appartenances sociologique ou même identitaire, c'est les deux. On recrée donc de nouvelles appartenances identitaires. Et ce qu'ils vivent dans les villages, ils essaient de les reproduire dans la ville. Et avec la technologie, ils essaient aussi, autant que faire se peut, essayer de créer cela.
Du lien entre eux.
Exactement.
Évidemment, ils sont peut-être plus proches les uns des autres.
Exactement.
Dans un petit village, excusez-moi l'expression, au sein d'une mégapole, que dans un petit village de brousse où il n'y a même pas de téléphone ni d'électricité.
Exactement. Et donc, les gens arrivent à se joindre plus facilement que, bon, voilà. Et donc, pour moi, au fond, le vrai problème, c'est quoi? Le vrai problème, c'est l'éducation. Comment faire en sorte que dans la ville ou dans le village, on puisse vraiment respecter l'autre, laisser l'autre être, laisser l'autre s'épanouir et puis donc laisser l'autre apporter vraiment le meilleur de lui-même. C'est un peu ça qui est l'enjeu, c'est ça le challenge.
Merci beaucoup Père Gaston, dans tout ce que vous dites on pourrait écrire 3 thèses de doctorat tellement il y a des sujets différents. Et justement nous allons arriver à notre 3e invité puisqu'il s'appelle Philippe de Cuverville, il est juste à côté de moi. Et lui va nous raconter ce qu'il fait aujourd'hui pour qu'entre LUCO à Angers et LUCAO d'Abidjan, il y ait un projet qui prenne en compte l'éducation et qui puisse permettre à nos jeunes de faire une expérience réciproque de l'Occident et de l'Afrique et de devenir finalement des hommes et des femmes mieux préparés, mieux engagés, meilleurs citoyens de ce monde. Et nous nous retrouvons tout de suite après cette pause musicale.
Gali, 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 gali
Chers auditeurs et auditrices de Radio Campus, nous voilà donc pour notre troisième partie de cette 12e émission Terre des Hommes. Et donc j'aimerais passer la parole à notre troisième invité, Philippe de Cuverville. Alors lui, il est français. Philippe, vous êtes entre le mois d'août et le mois de décembre de chaque année, vous êtes en Côte d'Ivoire, envoyé par une ONG qui s'appelle Fidesco. Et vous êtes au service, le trait d'union entre l'Université catholique de l'Ouest et l'UCO à Angers. C'est quoi cette mission? C'est quand même particulier, non? Vous avez plus de 60 ans, vous avez fait une belle carrière. D'abord, qu'est-ce qui vous a donné envie de partir comme ça? Et maintenant, qu'est-ce que vous faites et quel est le sens qu'a cette mission pour vous et pour nous?
Alors, quand on a eu la chance d'avoir une bonne vie professionnelle bien remplie et qu'on est donc à un tournant de son existence, partir dans une nouvelle aventure d'abord avec son épouse pour pouvoir aider et rendre service, c'est un vrai challenge et une vraie chance. Donc, on a voulu la saisir. Partir 4 mois, ça permet aussi de respecter sa famille et d'être là pendant les 8 autres mois de l'année. Alors Abidjan, c'est une destination qu'on n'a pas choisie, mais qu'on était ravis de retrouver, puisque il y a 38 ans, quand nous nous sommes mariés, nous avions été VSNE à San Pedro, donc à l'ouest d'Abidjan. Et là maintenant, on retrouve un milieu plus universitaire pour aider à mettre en place un programme entre l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest à Abidjan et l'UCO à Angers. Un programme qui touche l'entité d'économie et de gestion dans les deux facultés, de manière à aider en particulier les étudiants qui pourraient à un moment donné de leur cursus vouloir faire une partie de leurs études en France, des étudiants ivoiriens. Et j'espère aussi qu'à un moment donné, on aura des étudiants français qui auront la chance et l'audace d'aller passer quelques mois dans une université africaine, et en particulier à l'UCAO, pour pouvoir travailler ensemble. Moi, j'ai été très touché par ce projet parce que il faut bien avoir conscience, je ne sais pas si tout le monde le réalise, mais à l'échéance de la fin de ce siècle, en 2100, pratiquement la moitié de la population mondiale sera située en Afrique. On a là également un continent qui voit la francophonie se développer, puisqu'elle se développe et qu'elle parle beaucoup français, et bien veut dire que la francophonie se développe. Donc on a la chance de pouvoir faire des choses ensemble, avec des origines communes, et de pouvoir bâtir, créer, pour pouvoir contribuer au développement du pays, au développement de la Côte d'Ivoire, au développement également d'autres pays, puisqu'il y a des étudiants qui ne sont pas simplement des Ivoiriens. Bien offrir cette chance. Pour ça, donc, dans le sens de la venue de ces étudiants vers l'Europe, il y a quelques moyens et quelques nécessités à les aider à réussir leur intégration. Quand on est un jeune Ivoirien et qu'on vient en France pour faire des études, on change de climat, on change de moyens de fonctionnement, on rentre dans une université qui ne fonctionne pas nécessairement de la même manière que celle que l'on a quittée, et en sens inverse, ce sera pareil d'ailleurs. Eh bien, il faut pouvoir aider. Il faut aider sur certaines matières, il faut aider sur le comportement, il faut aider également sur l'histoire, sur la vie, la façon de vivre. Et donc tout ça, on le met en place à travers un diplôme universitaire qui va prendre corps l'été prochain et qui aura lieu pendant le mois d'août. Il y aura à peu près 6 semaines de cours pour des étudiants qui seront, comme on l'a dit, en économie et gestion, qui à l'issue de ces 6 semaines auront un examen qui est à la fois en contrôle continu et puis en examen terminal. Et si ces étudiants réussissent ce diplôme universitaire, ils feront leur première année d'études à Abidjan. Ils auront la possibilité, si leurs résultats sont bons, de venir selon la qualité de leurs résultats en deuxième année peut-être à Angers ou peut-être seulement en première année. Mais en tout cas, ils seront bien préparés à réussir cette nouvelle étape de leur formation et en profitant de cet échange culturel et de cet enrichissement de pouvoir travailler avec d'autres cultures.
Philippe, vous êtes un homme d'affaires, vous avez créé une plateforme de téléphonie, vous avez revendu cette plateforme à SFR, vous avez toujours fait du business dans votre vie, et même quand vous avez géré pendant 10 ans le diocèse de Paris, vous étiez quasiment directeur général d'un tas de grosses institutions de ce diocèse, avec Mgr 23 notamment. Comment est-ce que maintenant un homme comme vous, jeune retraité, peut se retrouver dans le monde universitaire finalement où il n'y a rien à vendre?
Eh bien justement, c'est très agréable de pouvoir être là de façon très libre et d'offrir simplement ses services, de rentrer modestement aussi dans tous les niveaux, de préparer des réunions, d'organiser, de partager ce que j'ai pu avoir la chance de vivre, tant en termes de fonctionnement et aussi peut-être apporter peut-être de l'efficacité professionnelle dans les modes de fonctionnement, en secouant parfois un peu les personnes pour essayer de les titiller, pour qu'on soit plus organisé, pour qu'on aille un peu plus vite, pour qu'on respecte les engagements, qu'on respecte les horaires, voilà, travailler ensemble. Et c'est très réjouissant parce qu'on a là en face de nous des gens très motivés qui ont envie que ça fonctionne. Et donc, apporter sa petite pierre et puis le faire avec son époux en étant à l'autre bout de la planète. L'autre bout, c'est relatif, puisqu'on n'est jamais qu'à 6 heures de Paris. Mais c'est très réjouissant, oui, très réjouissant.
Bon, voilà, c'est quand même passionnant ce que vous nous racontez. D'ailleurs, j'en profite pour dire à tous les jeunes retraités qui ont un background professionnel et qui voudraient, excusez-moi le terme, vieillir utile et donner, le temps qu'ils peuvent encore le faire, leurs compétences intellectuelles, professionnelles et spirituelles aussi, n'hésitez pas, c'est possible. Donc, l'ONG avec laquelle Philippe et son épouse de Cuverville sont partis s'appelle Fidesco, F-I-D-E-S-C-O. Allez sur Internet, vous trouverez leur site. C'est une ONG agréée par le ministère des Affaires étrangères. Ça peut toujours intéresser certains. Donc, vous, Philippe, vous êtes le trait d'union, le coordinateur local, basé à Abidjan, entre l'UCAO et l'UCO, et vous mettez de la fluidité, vous nous permettez d'aller plus vite les uns et les autres, vous nous gagnez du temps à nos deux universités pour que ce projet aboutisse. Et vous comptez faire ça combien d'années, Philippe ?
Alors, je suis engagé pour 4 années, et donc 4 années pendant lesquelles on y va 4 mois par an, a priori sur la même période et sur la continuité de mission. Mais être là-bas, c'est aussi se mettre au service de d'autres possibilités. On a, par les rencontres qu'on a fait là-bas, eu l'opportunité de participer à d'autres projets locaux, montrer un parcours Alpha Couple, faire des choses comme ça. Donc on se rend disponible et on est engagé pour 4 ans. On verra dans quel état on sera dans 4 ans. Peut-être qu'on aura envie de continuer.
Donc une personne, comme on dit en anglais, flexible people, ça c'est extraordinaire. Alors nous allons marquer notre troisième pause, mais ensuite pour terminer cette émission, je voudrais redonner la parole au Père Togo, donc le président de l'Université catholique de l'Ouest de l'entité de Côte d'Ivoire à Abidjan, où nous pourrons clôturer cette émission tous ensemble sur Terre des Hommes, sur une note d'espérance et d'espoir.
Terre des Hommes.
Père Togo, voilà, cette émission se termine. Terre des Hommes, c'était la numéro 12. J'étais vraiment ravi de vous accueillir tous les trois autour de cette table. C'est tout à fait remarquable le travail que vous faites. Moi, j'ai cette chance d'aller en Côte d'Ivoire tous les ans. Je connais Gaston depuis longtemps maintenant. Et je vois cette évolution, je vois cette passion qui vous anime tous, les professeurs, les présidents. Vous quittez vos propres pays pour aller rejoindre un autre. Vous aimez la jeunesse, vous aimez l'avenir. Et justement, Père Togo, ma dernière question est la suivante. Est-ce qu'on peut faire ce pays, quand bien même on est docteur comme vous, chercheur? Vous parlez l'italien, le français, certainement des langues du Mali. Vous avez fait des belles études, que même beaucoup de Français n'ont même pas faites eux-mêmes. Mais au fond, qu'est-ce qui vous anime vraiment pour vous occuper des jeunes? Est-ce que c'est ce background intellectuel ou est-ce que c'est quelque chose d'autre? Ou est-ce que c'est les deux?
Bon, en ce qui me concerne, moi, je lis cela à ma vocation parce que j'ai été appelé jeune. J'avais 12 ans quand j'ai entendu l'appel du Seigneur. Bon, je n'étais pas très sûr que c'était lui, mais au séminaire, ceux qui m'ont accompagné m'ont donné confiance et c'est comme ça que je me suis engagé pour être prêtre. Et le reste maintenant, c'est une question de vocation. J'ai choisi d'être prêtre diocésain. Dans ma pensée, c'était pour rester vicaire ou curé. Hein. Je n'ai pas pensé à aller m'occuper des jeunes. Mais ce sont les évêques. Un jour, ils m'ont dit, bon, écoutez, on a besoin d'un professeur d'histoire au grand séminaire, alors on va faire des études d'histoire. Et bien, moi, je suis parti. Et c'est la même chose également pour l'université maintenant. Ce n'est pas que j'ai postulé pour être à ce poste-là. Et alors, j'essaye d'apprendre, de m'y mettre. Sinon, ce n'est pas que je me préparais à cela ou bien que je vais demander à être accompagnateur des jeunes. Mais une fois qu'on est prêtre, normalement, on doit être comme un joueur. Qui peut être défenseur ou bien à l'attaque ou bien à l'aile, là où on vous place, vous essayez de jouer comme vous pouvez, en vous faisant aider par des gens qui sont souvent plus expérimentés que vous. Et même avec les jeunes, même, on apprend beaucoup. Très souvent, d'ailleurs, c'est eux qui nous recadrent quand nous sortons un peu, n'est-ce pas, des ordinaires. Donc, je dirais que vraiment, moi, je me laisse faire, disons, selon ce que le Seigneur même a tracé pour moi. Peut-être lui, il connaît le chemin. Moi, j'essaie de suivre. On nous a toujours appris au séminaire que celui qui obéit ne se trompe pas. Alors, nous essayons d'obéir à cette voie du Seigneur qui passe toujours par la hiérarchie pour nous dire, bon, Kizito va faire ceci, va faire cela.
Père Togo, vous êtes un homme heureux aujourd'hui, vous êtes un prêtre heureux?
Ah oui, moi j'estime que je suis un prêtre heureux. Déjà, le fait d'être prêtre, eh bien, on peut me dire qu'on est des marchands du bonheur. Parce que quand on est prêtre, on est quand même avec Jésus. Hein, et Jésus, c'est... bon, je ne dis pas c'est le Graal, mais c'est ça aussi. Et celui qui est avec Jésus, normalement, est heureux. D'ailleurs, Jésus l'a dit, hein, c'est à la joie que vous aurez à vivre avec moi qu'on va reconnaître que vous êtes mes disciples. Donc, ça n'a aucun sens d'être un disciple de Jésus et d'être triste. Au contraire, le disciple de Jésus, c'est celui qui est capable, justement, même dans les moments eh bien, de difficulté, de savoir que la joie que Jésus lui a donnée ne sera jamais enlevée. Donc, c'est vrai que, bon, en tant que prêtre, parfois, j'ai parlé d'obéissance, mais ce n'est pas toujours facile d'obéir. Hein?
Ah, c'est ça.
Ben, parfois, vous voyez une croix qui s'avance, vous dites, « Ah, Seigneur, que ça passe loin de moi », et puis la croix vous arrive pourtant quand même. Alors, il faut assumer, et au-delà de ce que vous portez comme croix, vous êtes quand même heureux.
Père Togo, merci beaucoup. Alors évidemment, Terre des Hommes n'est pas a priori une émission religieuse ni politique, mais autour de cette table aujourd'hui, nous avions deux prêtres passionnés, heureux, par leur sacerdoce et par leur métier d'éducateur et de professeur-chercheur, et ils nous ont parlé avec leur cœur. Ça rejoint aussi les valeurs de l'Université catholique d'Angers, finalement, même si elle est ouverte à tous, puisqu'elle est ouverte à tous ceux et celles qui veulent venir étudier chez nous, qui reconnaissent dans nos valeurs ce à quoi ils aspirent, même s'ils ne sont pas croyants d'ailleurs. Chers amis auditeurs et auditrices, nous vous remercions beaucoup pour cette 12e émission que nous avons passée ensemble. Nous allons continuer notre mission. Nous partons maintenant dans une nouvelle réunion tous les quatre. Et nous vous souhaitons, au nom de Radio Campus, un bon retour à Abidjan.
Et merci aussi à Radio Campus et à tous ceux qui travaillent ici. Que le Seigneur vous bénisse.
Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.
Émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.